1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 6h, premier journal d'Europe 1.
Les gardiens de la paix sont engagés plus jeunes, avec un temps de formation qui est moindre qu'auparavant. Ça donne une catastrophe.
Comment expliquer ce déchaînement de violence, ce passage à tabac le week-end dernier? 4 policiers ont passé la nuit en garde à vue. Ils sont poursuivis pour violence et pour racisme après l'agression d'un producteur de musique.
Des images qui nous font honte, ce sont les mots du président sorti de sa réserve hier. Cette affaire fait tanguer la majorité en plein débat sur la loi sécurité globale. De nouvelles manifestations sont attendues cet après-midi.
C'est le jour J pour tous les commerces de France. Après un mois de confinement, c'est donc la réouverture aujourd'hui à un mois de Noël. Il était temps, vous entendrez ces commerçants soulagé.
Et puis le foot, les joueuses de l'équipe de France ont validé hier soir leur ticket pour l'Euro 2022.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils sont 4 policiers qui ont donc passé la nuit en garde à vue. Ils ont été entendus par les enquêteurs de l'IGPN.
Et ils le seront de nouveau dans la journée. Ces 4 fonctionnaires sont impliqués dans l'agression de Michel Zecler, ce producteur de musique, tabassé le week-end dernier dans son studio du 17e arrondissement de Paris. Les policiers sont poursuivis pour violence, pour faux en écriture. Ils sont également soupçonnés de racisme. Guillaume Bier.
Les accusations s'alourdissent de jour en jour pour ces policiers. À l'origine de l'enquête, ils étaient soupçonnés de violence aggravée, parce qu'ils sont policiers, et de faux en écriture publique, à cause de leur PV d'intervention, à minima tronqué par rapport à ce que montre la vidéo. Mais en garde à vue, 3 d'entre eux doivent aussi s'expliquer sur la version avancée par la victime. Le producteur assure que les policiers ont tenu des propos racistes. « Sale nègre », lui aurait-il lancé en le frappant. Sur ce point, pas de preuve, la caméra de vidéosurveillance n'enregistre que les images, pas le son, mais c'est bien pour violence volontaire en réunion, avec armes et à caractère raciste que ces fonctionnaires sont interrogés. Sachant qu'une autre vidéo filmée par un voisin à sa fenêtre montre comment les policiers ont finalement sorti la victime et ont continué à le frapper sur le trottoir sans raison apparente, en présence passive de leurs collègues. Quant au 4e fonctionnaire interrogé, il faisait partie des renforts samedi dernier. C'est lui qui aurait lancé une grenade lacrymogène à l'intérieur du local. Geste totalement injustifié et qui devrait lui valoir des poursuites.
Guillaume Bier, l'enquête tentera donc d'expliquer ce déchaînement de violence, un passage à tabac qui nous fait honte. Ça, ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier soir. Pour le sociologue Fabien Jobard, quelle qu'ait été leur motivation samedi dernier, les policiers, c'est un fait, aujourd'hui sont souvent beaucoup trop jeunes et trop peu formés.
L'une des crises de la police, c'est que les gardiens de la paix sont engagés plus jeunes. Ils entrent dans la police avec un temps de formation qui est moindre qu'auparavant. La durée de la formation a été réduite avec le président Hollande. On a défendu l'idée d'une police qui serait massivement employée sur l'antiterrorisme. Il fallait subitement du bleu partout pour garder les écoles, pour garder les institutions, pour patrouiller. Et donc, le président l'avait dit lui-même, je raccourcirai le temps de formation pour qu'il soit plus rapidement présent dans la rue. Ça donne une catastrophe. Rendez-vous compte, à Berlin, la police est régionale, donc les policiers sont berlinois. Ils parlent d'ailleurs avec l'accent berlinois là-bas. Les policiers sont sur le terrain en responsabilité après 3 ans. Ans et non pas 12 mois.
Fabien Jobard, sociologue et directeur de recherche au CNRS, il était l'invité de Julien Bugier hier soir sur Europe 1.
Cette nouvelle crise et cette affaire de violence policière a provoqué un début de crise politique. Elle intervient en plein débat sur la loi sécurité globale.
En plein débat notamment sur cet article 24 qui vise à pénaliser la diffusion de vidéos montrant des policiers. Mais ces violences policières justement n'auraient sans doute pas été signalées sans une vidéo amateur.
Résultat, le gouvernement a fait un pas. Jeudi, l'exécutif annonce une réécriture de l'article contestée immédiatement par les parlementaires.
Récit de ces dernières 24 heures chaotiques pour la majorité avec Jean-Gabriel Bourgeois.
J'ai proposé cet après-midi au Premier ministre la création d'une commission.
Jeudi soir sur France 2, Gérald Darmanin le confirme.
Nous allons pouvoir travailler à la réécriture s'il en était besoin de cet article 24.
Et cette commission indépendante met le feu aux poudres dans la majorité, tollé chez les députés En Marche qui prennent publiquement la parole contre la création de cette commission. À leur tour hier, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, puis Gérard Larcher, le président du Sénat, s'y opposent. Pour sortir de la crise, Hugues Granson, le vice-président de l'Assemblée, suggère carrément de retirer l'article de loi.
Plutôt que de vouloir s'obstiner à sauver un dispositif mal compris,
est préférable d'y renoncer.
Finalement, dans l'après-midi, marche arrière à Matignon, Jean Castex promet que la commission ne sera pas chargée de réécrire le texte. L'incendie dans la Macronie s'éteint. Le député Pierre-Alexandre Anglade.
C'est une clarification qui était absolument nécessaire. Il faut savoir avancer, il y a un débat parlementaire qui va se poursuivre sur la loi sécurité globale et sur l'article 24, et donc il appartient au Parlement de corriger ou non cet article 24 s'il l'estime nécessaire, mais à personne d'autre.
Et après la colère dans la majorité, c'est dans la rue que l'exécutif va devoir affronter l'opposition au projet de loi. Plusieurs manifestations sont prévues dans la journée.
Jean-Gabriel Bourgeois, manifestation en effet prévue dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, où le rassemblement est prévu place de la République à 14h. Manifestation autorisée par la justice.
Alors, il y a donc cette agression. Le week-end dernier, ce sont d'autres images aussi qui ont fait scandale. Un commissaire en train de faire un croche-pied à un manifestant.
Des violences qui, place Beauvau, fragilisent le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin sera auditionné lundi par la commission des lois de l'Assemblée. Le ministre tangue, mais Louis Dragnel, il n'a pas l'intention de faire marche arrière.
Non, Gérald Darmanin ne reculera pas. En tout cas, c'est ce que nous dit un de ses proches ce soir. Attention à l'effet de loupe. Il a l'opinion publique avec lui et les sondages montrent que les Français soutiennent cet article 24. Objectif du ministre de l'Intérieur, afficher sa détermination malgré la tempête. Une tempête dont il est responsable aux yeux même des députés de La République En Marche. Sauf que Gérald Darmanin entend bien poursuivre sa stratégie, défendre des sujets sensibles pour faire bouger les lignes. Et son entourage l'assure, il a le soutien entier d'Emmanuel Macron. Mais à l'Élysée aussi, le ministre Clive, un conseiller, n'hésite pas à dire qu'Emmanuel Macron devrait le lâcher. Il nous fait tous plonger en enfer et le président avec. Il faut arrêter avec le mythe Darmanin. D'autres, au contraire, considèrent qu'il reste un atout politique incontournable pour le chef de l'État. Et surtout dans la perspective de la prochaine campagne présidentielle. Emmanuel Macron le sait, son banc de touche est maigre pour essayer de trouver un éventuel remplaçant à Gérald Darmanin, qui, malgré les polémiques en tant qu'ancien LR, a pour mission de continuer de siphonner la droite et surtout de contrecarrer les accusations de laxisme dont Emmanuel Macron fait l'objet depuis le début de son quinquennat.
Louis Dragnel du service politique d'Europe 1.
Et bien sûr, on reparle à la fois de cette crise politique et de ces violences policières tout au long de cette matinale. 8h15, je reçois le maire Rassemblement National de Perpignan, Louis Alliot. Et puis à 8h40, ce sera également le sujet de l'édito politique d'Aurélie Herbe. Il est 6h07, ça fait donc un mois qu'ils attendent. Les commerçants vont enfin pouvoir ouvrir leurs portes ce matin.
Tous les commerçants, essentiels ou non, après un mois de reconfinement, les clients seront de retour tout à l'heure. Alors ça ne sera pas tout à fait comme d'habitude. Cette réouverture se fait au prix d'un protocole sanitaire très strict, 8 mètres carrés par personne à l'intérieur des magasins. Mais malgré les règles, tout le monde a hâte, comme chez ce disquaire parisien. Reportage d'Angèle Châtelier.
Notre métier, c'est quand même d'accueillir les clients et pas d'envoyer des cartons par la poste. Donc on est assez excités.
Des cartons, d'ailleurs, il y en a plein la boutique. Franck Pompidor, le co-gérant du disquaire, emplit des dizaines entre deux coups d'aspirateur.
Il y a des cartons beaucoup ici, mais en fait, il y en a aussi beaucoup dans l'arrière-boutique. Du coup, ce soir, d'ailleurs, on doit rester un peu tard pour attendre les poubelles, des poubelles jaunes.
Les vinyles d'avant le confinement n'ont pas bougé. Ils sont rangés dans leur caisse par ordre alphabétique. Mais le côté gauche du magasin, lui, réservé aux platines, n'est pas encore tout à fait en place. Une table règne en plein milieu. Il y a un bac vide, 133 tours dedans. Mais le fond sonore, lui, est déjà là.
On est en train d'écouter Jack Name, Magic Touch.
Pompidor est heureux de pouvoir enfin ouvrir les rideaux métalliques des fenêtres. Il a perdu 70% de son chiffre d'affaires en novembre à cause de la fermeture.
Nous, on vend des disques vinyles et on touche beaucoup de collectionneurs parce qu'en fait, la musique, on peut l'écouter autrement en fait. Il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire qu'on peut acheter son disque et beaucoup nous ont dit je viendrai en décembre, dès qu'on sera ouvert, je viendrai acheter mon disque. En attendant, je l'écoute de façon numérique. Donc, les disques qu'on a le plus vendus, c'est des éditions limitées en fait.
Comme un vinyle de rareté du groupe The Kills. Mais ici, il y a des centaines de vinyles de tous les genres et ils raviront sûrement les quelques curieux qui s'arrêtent devant la boutique. Alors presque prête à rouvrir.
Angèle Châtelier, c'est parti donc pour les courses de Noël. Sachez qu'aujourd'hui, parmi les assouplissements au confinement, il y a l'augmentation du rayon dans lequel vous avez le droit de vous promener. C'est désormais 20 km et pendant 3 heures, mais toujours avec une attestation.
À un mois de Noël, peut-être que l'ambiance des fêtes va enfin se répandre.
Ah oui, à cette époque d'habitude, les marchés de Noël s'installent. Ils sont cette année annulés en raison de la pandémie. C'est le cas par exemple du célèbre marché de Noël de Strasbourg. Une ville qui toutefois va briller jusqu'à Noël. Les illuminations ont été maintenues, elles ont été lancées hier en présence pour Europe 1 de Mélina Fachin.
5, 4,
c'est à la nuit tombée hier que Strasbourg s'est paré de ses habits de lumière. Le traditionnel marché de Noël avec ses 300 chalets a dû être annulé cette année. Mais Jeanne Barseglian, la maire de Strasbourg, tenait à maintenir coûte que coûte les illuminations dans tous les quartiers de la ville.
C'est une édition toute particulière, mais c'est ce qui rend ce moment d'illumination du Grand Sapin et de notre ville encore plus beau. Parce que je crois qu'on a besoin de symboles positifs après ces mois difficiles.
La mairie avait appelé les Strasbourgeois à rester chez eux hier soir, à suivre plutôt l'événement en direct sur Internet. Mais quelques dizaines d'habitants sont tout de même venus admirer le Grand Sapin Place Kléber.
Magnifique, comme d'habitude. Et là, c'est encore plus reposant cette année.
Mais oui, cette année, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de touristes.
C'est quand même la capitale de Noël. Déjà pas le marché. Non, c'est bien d'avoir au moins ces illuminations qui apportent un peu de baume au cœur.
Les Strasbourgeois pourront profiter des illuminations jusqu'au 30 décembre, dans des rues sans doute plus clairsemées, bien loin des 2 millions de visiteurs habituels. Strasbourg, Mélina Fachin pour Europe 1.
Et avec le Covid, on le sait, les déchets médicaux se sont multipliés ces derniers mois. Les masques notamment, que certains n'hésitent pas à jeter par terre.
Edmund et Frédéric, un Anglais et un Français, ont donc décidé de marcher de Marseille à Paris pour ramasser tous ces masques usagés. Tenez-vous bien, ils en ont déjà récolté 5000.
On en a vu beaucoup, 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 énormément évidemment, surtout autour des grosses agglomérations. On est parti de Marseille, ensuite direction Valence, Avignon, ensuite Lyon. Et après les prochaines étapes, c'était on a longé Sens. Et puis pour finir, pour arriver en Ile-de-France, Villeneuve-Saint-Georges, alors là c'est Covid-Saint-Georges. On a trouvé des centaines et des centaines de masques, on en a déjà je sais pas plus d'un millier là sur les pics. On a longé des zones où il y avait des masques par dizaines, on en a ramassé.
La première journée c'était 350.
Ça a freiné après quand on arrive dans le monde rural, La Palme à la Bourgogne bravo, chapeau ouais. Les gars, la Bourgogne, là, numéro 1 sur notre trajet. Ailleurs, malheureusement, on en trouvait vraiment partout. On a trouvé des cimetières de masques. Il y a des endroits où il suffit qu'il y ait un courant d'air qui passe. Il va amener tous les masques sur un côté. Quoi.
Edmond et Frédéric avec Virginie Salmen.
Mais vous savez qu'un masque, ça met à peu près 500 ans hein, à se dégrader.
Donc,
ça vaut quand même le coup de le rappeler.
Sachez que la collecte de la Banque alimentaire a débuté. Elle durera tout le week-end. Vous pouvez acheter et donner des produits non périssables aux bénévoles qui se trouvent dans les supermarchés.
On passe au foot, Marguerite, et cette jolie qualification pour l'équipe de France féminine.
Oui, les Bleus ont battu les Autrichiennes hier soir 3-0. Malgré leurs conflits internes, elles valident donc leur ticket pour l'Euro 2022. Cyril de la Morinerie était dans le stade pour Europe 1.
Les Françaises ont mis de côté leur rancœur. Elles n'ont laissé que des miettes aux Autrichiennes. 3 buts, 2 poteaux et une qualification pour l'Euro. Une belle soirée pour la sélectionneuse Corinne Diacre.
On avait à cœur de qualifier la fédération, de qualifier cette équipe de France féminine après Noah et nos espoirs. Voilà, sur l'Euro qui arrive. Les cadres, les pas cadres, les jeunes, les anciennes, les vieilles, les blondes, les brunes, tout le monde a été à la hauteur ce soir.
Marie-Antoinette Katoto a confirmé sa bonne forme du moment et a réussi un doublé. Pour l'attaquante du PSG des Bleus, ce match fera date.
Oui, c'est un énorme soulagement. Un nouveau départ, je ne sais pas. Oui, ça va être un de nos matchs références.
Mardi, les joueuses de l'équipe de France affronteront le Kazakhstan à Vannes pour un match certes sans enjeu, mais avec déjà à l'esprit l'Euro 2022. Les prochaines années s'annoncent d'ailleurs palpitantes avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Guingamp, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Il y avait de la boxe hier soir, victoire de Tony Yoka qui poursuit sa progression dans les classements mondiaux. Le Français n'a pas encore essuyé la moindre défaite chez les professionnels. Et puis de la boxe, il y en aura aussi la nuit prochaine et pas n'importe quelle affiche.
Bah oui, puisque sur le ring, il y a un revenant qui s'appelle Mike Tyson, 54 ans. Iron Mike fait son grand retour, ce sera à Los Angeles. Axel May.
La bande-annonce du combat rappelle un film de Rocky. Les images d'archives de celui qui fut le plus jeune champion du monde de l'histoire des poids lourds alternent avec d'intenses séances d'entraînement de Mike Tyson version 2020. 15 ans après son dernier match, Iron Mike affiche un physique d'athlète retrouvé. 97 kilos sur la balance. Pourquoi ce retour ? Une lumière dans ma tête a fait bing, explique celui qui fut aussi catalogué l'homme le plus méchant de la planète. Mais il y a surtout l'argent que va générer ce combat en pay-per-view, en télévision à la demande. Officiellement, il s'agit d'une exhibition face à un autre quinquagénaire bien connu des fans de boxe, Roy Jones Jr. Je ne sais pas de quoi vous parlez avec « ce n'est pas un vrai combat ». T'as Mike Tyson et Roy Jones. Je viens pour combattre et j'espère qu'il vient combattre aussi. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Réponse, dans un rire ironique de Roy Jones, le dernier gars qui a fait une exhibition face à Mike Tyson, a été envoyé au tapis au premier round.
Axel May. Et puis pas de changement en tête du Vendée Globe. Le français Charlie Dalin est toujours en tête. Il creuse même l'avance. Le gallois Alex Thompson, lui, a de nouveau signalé des problèmes techniques. Il aura des soucis avec son gouvernail cette fois.
Charlie Dalin, que l'on suit hein, sur Europe 1, puisqu'on a, la vue sur son cockpit, mais presque.
Hein,
c'est ça. On le suit attentivement grâce à Corinne Boulou. Merci beaucoup. C'était le journal de Marguerite Lefebvre qui revient à 7h.